Pour introduire notre prochaine invitée, je vais vous la présenter, les professeurs au département de communication de l'Université de Sherbrooke, directrice du pôle média de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. On va faire un lien avec les complotistes. Enfin, dans les derniers jours, j'ai des amis qui m'ont envoyé la vidéo de Bernard Lachance. On vous en a parlé tout à l'heure, Bernard Lachance, qui voulait faire une entrevue avec Denis Lévesque, qui s'était servi d'un autre prétexte, qui avait dit à son recherchiste, je veux vous parler du fait que j'ai été diagnostiqué avec le VIH. Finalement, il est tombé dans les affaires de complot de la COVID. Denis Lévesque a mis un terme à l'entrevue. Donc, on va enchaîner avec notre invité et je vous fais entendre d'entrée de jeu les propos de Bernard Lachance.
Catherine Gaudreau analyse l'actualité de la Mauricie au 106.9 Mauricie.
Que la Mauricie se lève!
Et Denis, je vais te surprendre, j'ai donné une toute autre pré-entrevue à ton recherchiste parce que j'avais peur que vous me laissiez pas dire ce que je m'apprête à vous dire. Mais moi, j'ai pris, après Oprah, j'ai pris une pilule pendant 8 ans.
Aïe, aïe. Ça, c'est ce qu'on appelle la trithérapie.
C'est la trithérapie et... J'ai arrêté il y a 3 ans. La propagande de cette pandémie d'une COVID-19 me rappelle étrangement la propagande du VIH-SIDA des années 80. Et ceci est une pandémie qui aujourd'hui, 35 ans plus tard, est très bien documentée comme ayant été, et là je vais vous surprendre, comme ayant été frauduleuse, criminelle et aussi scénarisée par les mêmes acteurs et les mêmes institutions que ce qui nous intéresse aujourd'hui.
Bernard. Tu l'as pas dit à au chef de pupitre qu'elle allait dire ça, et moi, je peux pas penser ça à la télévision. Parce que toi, pour toi, c'est sérieux, puis pour moi, c'est la patate.
Denis, je cite.
Ça se poursuit comme ça là, pendant 1 minute et demie. Là. Il a même filmé. Puis je vais vous filmer parce que vous me passerez pas. Bon, alors il est pas le seul actuellement à avoir ce genre de discours-là. Et il y a eu un article publié, je pense, c'est la semaine dernière dans le Journal de Montréal. C'est quoi le portrait type d'un complotiste? Marie-Ève Carignan, notre invitée. Bonjour, Madame Carignan.
Bonjour.
Bonjour. Bernard Lachance en fait partie. Vous êtes un peu attardé là-dessus à ces gens-là qui croient toutes sortes de théories. Qu'est-ce qu'on peut dire? Y a-t-il un portrait type qui existe, Madame Carignan?
On est en train de travailler là-dessus, donc on a fait des premières analyses là, avec des premières données là, pendant la pandémie, et on a maintenant une équipe qui travaille à analyser des données plus complètes, plus approfondies, donc on va en savoir plus dans quelques semaines. On a déjà une bonne idée de certaines tendances là, au Québec avec des données préliminaires qu'on a analysées, puis qui confirmaient ce qu'on voit aussi beaucoup ailleurs dans le monde. Donc oui, il y a des éléments qui nous permettent là, de dire que des personnes sont plus susceptibles que d'autres d'adhérer à des thèses complotistes là, en lien notamment avec le COVID, mais avec d'autres maladies aussi.
OK, mais donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire jusqu'à maintenant dans les données préliminaires que vous avez? Quels sont les facteurs qui semblent influencer le fait qu'il y a des gens qui adhèrent aux thèses complotistes?
Mais parmi les facteurs qu'on voit d'abord souvent, les plus jeunes. Donc, ce qu'on voit là très clairement, il y a un lien avec l'âge. Donc, dans nos données préliminaires, on était chez des 18 ans et plus. Fait qu'on voyait que les répondants de 18-34 ans, là, la tranche d'âge la plus jeune, c'est ceux qui adhèrent le plus aux théories du complot. Donc, des fois, on entend ailleurs qu'on pense que c'est les plus vieux ou ceux qui comprennent moins comment les médias sociaux marchent. C'est pas vrai. C'est les plus jeunes. Là, on essaie d'approfondir les moins de 18 ans aussi dans nos analyses à venir. Et ailleurs dans le monde, là, on a vu des données semblables. Donc, les plus jeunes, qui s'expliquent entre autres par justement cette présence-là sur les médias sociaux. Donc, les jeunes sont plus sur les médias sociaux, sur Internet. Et là, avec la pandémie, on était en confinement. Donc, les gens avaient plus de temps pour être sur les médias sociaux. Ça a facilité puis ça a accéléré l'adhésion à des thèses complotistes en lien avec la COVID-19, là, comme celle qu'on entendait précédemment. C'est un premier facteur. Un autre facteur qu'on voit, c'est le niveau d'éducation. Donc, les gens qui ont un niveau moins qu'universitaire, donc c'est collégial en descendant, ont plus de tendance à adhérer aussi à des thèses complotistes. On peut faire un lien avec, entre autres, le développement de l'esprit critique à l'université. Mm-hmm. Les gens développent davantage leur esprit critique, ont peut-être tendance à fouiller les sources d'information, alors sont moins sensibles d'adhérer à ces thèses-là, un peu comme ceux qui consultent les médias traditionnels. Finalement, on voit vraiment un lien. Ceux qui écoutent la radio, la télé, les journaux de médias traditionnels d'information adhèrent moins. Autre élément qu'on peut voir pour vous dresser là, les grandes lignes de gens qui sont plus susceptibles d'adhérer, on voit vraiment un lien avec l'anxiété ou le stress. Donc, ceux qui étaient très anxieux par rapport au COVID, qui ont perdu peut-être leur emploi, qui ont des stress financiers aussi étaient plus sensibles à adhérer aux thèses complotistes.
OK. Parce que dans l'article que je lisais, vous parliez également des gens qui ont tendance à se méfier naturellement là, des autorités, du gouvernement. Il y en a d'entrée de jeu qui sont plus méfiants, qui vont dire « Ah, les gouvernements », puis qui ont tendance à voir plus le côté négatif. Donc, encore là, ça fait partie des critères qui peuvent déterminer un complotiste?
C'est un critère très, très important, celui-là, et c'est généralisé dans les études. Ce qu'on voit, c'est souvent, mais justement, le lien avec, entre autres, l'âge, l'éducation, le revenu, ben c'est tout aussi un fait que ces gens-là semblent que peut-être ils appartiennent pas à une certaine élite de laquelle ils ont tendance à se méfier parce qu'ils se disent, bon, ben c'est eux qui contrôlent, qui ont le pouvoir, ils nous cachent des choses. Donc, ça va vraiment beaucoup avec une méfiance envers, par exemple, les autorités gouvernementales ou de santé publique, envers les médias, envers les chercheurs universitaires dont je fais partie. Donc, envers toute l'espèce d'univers qui décide. Et il y a une grande tendance chez les complotistes à voir vraiment qu'il y aurait peut-être une conspiration qui implique ces pouvoirs-là et qu'on nous cache des choses à l'ensemble de la population ou au reste de la population. Donc, cette méfiance-là envers les autorités, oui, est vraiment très importante.
OK, Mme Carignan, j'imagine, bon, évidemment que la COVID, ça a comme, je sais pas si ça a fait augmenter le nombre, mais on en voit beaucoup, on en entend beaucoup, mais il y avait des groupes qui existaient déjà avant, là.
Oui, ben le phénomène là des complotistes ou ceux qui adhèrent à des théories complotistes, c'est vraiment pas nouveau. Hein, ça existe depuis bien avant même l'Internet. On pense à des gens qui, par exemple, pensent qu'on n'a jamais marché sur la Lune puis qu'on leur cache la vérité en disant qu'on a marché sur la Lune, JFK, peu importe. Mais aujourd'hui, ce qui est particulier avec la COVID, c'est la facilité de propagation avec les médias sociaux. On peut voir des thèses qui viennent d'un peu partout dans le monde puis les relayer. Entre autres, là, ce que certains complotistes célèbres ici au Québec disent est largement relayé en Europe. Et ce qu'on a vu avec la COVID de particulier, c'est que la vitesse de propagation a été beaucoup plus grande, accélérée, et donc la même chose pour la vitesse d'adhésion. Donc, plus de gens ont vraiment adhéré rapidement à ces thèses-là. Par exemple, j'ai pas entendu l'entrevue avec Denis Lévesque comme tel, mais j'entendais qu'il évoquait le VIH-SIDA. Je sais pas s'il faisait un lien avec le COVID, mais ça, c'est un bon exemple. Le même genre de théorie du complot qu'on associe au sida, sur les vaccins, sur l'origine de la maladie, a été un peu, si on veut, déformée puis réappliquée au COVID dernièrement, mais ça a pris des années avant que ça s'installe puis que des gens commencent à croire que bon, il y avait un complot autour du sida, tandis que là, si on rapporte le même genre de thèse pour le COVID, ben ça a pris vraiment moins de temps à s'installer là.
Ouais, clairement, Madame Carignan, à quel moment votre étude sera complétée là, que vous aurez toutes les données complètes? Est-ce que c'est une question de mois?
Oui, question même d'ici environ 2 à 3 semaines, là, on va avoir des données plus complètes pour un premier échantillon d'analyse, c'est-à-dire qu'on avait fait une étude préliminaire sur 600 répondants, puis on vient de terminer en juin, le mi-juin, un sondage où on a plus d'un millier de répondants au Canada, mais aussi dans 8 autres pays pour comparer un peu les tendances, et on est en train d'analyser les données, donc d'ici une semaine ou deux, on va avoir, d'ici plus 2-3 semaines, on va avoir nos données, et dans quelques mois, là, on va refaire une autre analyse pour aller voir si la situation a évolué.
OK, très intéressant. On a hâte de mettre la main là-dessus. Merci, Mme Carignan, pour les explications ce matin.
Avec plaisir.
Merci, au revoir. Marie-Ève Carignan, professeure au département de communication à l'Université de Sherbrooke, directrice du pôle média de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent.